Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Controverse au sein de la Banque Centrale Européenne. Depuis les nouvelles mesures d'assouplissement décidées le 12 septembre, les dissidents s'expriment ouvertement. Et hier, une des membres du directoire a annoncé sa démission.
Oui, et ce qui est intéressant dans le départ de l'Allemande Sabine Lautenschläger, c'est que selon une source qui lui est proche à l'AFP, ce sont bien les dernières décisions prises le 12 septembre qui ont été le déclencheur. Alors ces mesures, une baisse des taux et un rachat massif d'actifs par la Banque Centrale Européenne reviennent à injecter des liquidités sur des marchés bloqués par l'incertitude et la faible demande, mais cette décision avait bien divisé le Conseil. Une dizaine de membres s'étaient prononcés contre. Trois gouverneurs de banques centrales français, néerlandais et allemands s'étaient publiquement opposés à ces mesures. Bref, dans un contexte où la politique de Mario Draghi lui-même sur le départ est controversée et avec l'Allemagne et les pays du Nord qui font pression pour une éventuelle hausse des taux, cette démission annonce-t-elle une remise en cause ? Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Carré, il est économiste, maître de conférence à l'université Bretagne Sud.
Il y a un contexte politique au sens large, à savoir que l'Allemagne n'a pas forcément digéré de ne pas avoir eu la présidence de la BCE, qui revient une nouvelle fois à la France, et c'est la deuxième fois, après tricher entre 2003 et 2011. L'autre chose, c'est que l'Allemagne, en général, a une tradition de voix dissidente. Hein, vous l'avez dit, le plus virulent, là, suite à la décision du 12 septembre, c'était Weidmann, hein, le président de la BCE. Et donc, elle souhaite peut-être, par cette démission, engager un rapport de force avec les autres membres de la zone euro pour pouvoir obtenir des nominations qui sont plus dans la ligne de pensée de l'Allemagne. Il y a un rapport de force et un compromis que l'Allemagne essaye d'établir. Mais ce que dit Mario Draghi, c'est qu'il y a quand même des raisons objectives qui l'ont amené à cette décision. Sinon, il n'aurait pas obtenu la majorité sur les 25 membres. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause fondamentale. Pour être plus précis sur le désaccord, parce qu'il faut bien distinguer, il y a eu quand même trois décisions le 12 septembre. Baisser le taux de -0,4 à -0,5. Faire des TLTRO, c'est-à-dire des prêts aux banques, et sans doute le troisième décision, et c'est ça qui sans doute a causé la démission allemande, et c'est ça qui peut-être sera le plus âprement discuté sous le mandat de Christine Lagarde, c'est le redémarrage du fameux quantitative easing. Hein. Son petit nom, c'est APP, Asset Purchase Program. Là, ce ne sont pas des prêts, c'est la Banque Centrale achète des titres. Et là, c'est 20 milliards par mois. À mon avis, c'est ça qui a créé les voix dissidentes, et c'est peut-être ça qui fera le plus dissensus sous le mandat de Christine Lagarde.
Christine Lagarde qui commencera son mandat le 1er novembre, et les Allemands, première économie européenne, sont également sur la touche d'une autre nomination importante à la Banque Centrale Européenne.
Oui, là, c'est celle du remplaçant de Benoît Cœuré au directoire de la BCE. Un candidat unique a été choisi aujourd'hui selon l'Eurogroupe, c'est l'ex numéro 2 de la Banque d'Italie, Fabio Panetta. L'Allemagne en effet évincée, alors qu'elle est aussi la première contributrice aux fonds propres de la BCE. Quant à la politique monétaire de Mario Draghi, c'est un sujet sur lequel vous reviendrez demain dans Entendez-vous l'écho, Tiffaine.
Absolument. On passe au bref. Christine Lagarde part à la BCE et c'est une Bulgare qui la remplace à partir d'aujourd'hui comme directrice générale du FMI.
Oui, Kristalina Georgieva, une économiste de formation passée par les institutions européennes, c'était aussi la candidate de l'Union européenne, mais aussi et surtout de la Banque mondiale où elle a travaillé dès 93, habituée des investissements liés au climat et au développement, dit-on, ce qui est utile peut-être pour faire face au ralentissement mondial, sa priorité. Une technicienne à l'expérience reconnue et peut-être une image plus consensuelle donc pour le FMI, accusé de s'être de nouveau lancé dans une aventure risquée avec le prêt de 57 milliards de dollars à l'Argentine. Kristalina Georgieva a d'ailleurs posté hier sur Twitter une photo d'elle et du ministre des Finances argentin Hernán Lacunza en décrivant, je cite, sa hâte de travailler avec les autorités argentines.
Et la suite du feuilleton de l'accord commercial américano-japonais, est-ce qu'il est finalement signé, Xavier ?
Et du moins la première partie, un gros morceau, disait hier Donald Trump qui signait avec Shinzo Abe à New York. L'accord comprend effectivement pour les États-Unis plus de 7 milliards de dollars de baisse des droits de douane japonais sur certaines importations, le bœuf et le porc notamment. Et pour le Japon, c'est plus hétéroclite, 40 millions de dollars d'exemption de taxes agricoles, éventuellement plus tard des turbines à vapeur et des vélos, et le fait que, pour l'instant, leurs exportations automobiles vers les États-Unis sont épargnées d'une surtaxe de 25%. Déjà, les éleveurs japonais s'inquiètent et un deuxième accord séparé sur le numérique suivra.
Et on finit rapidement avec un New Deal vert proposé à l'ONU.
Oui, dans un rapport de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui propose tout simplement de rompre avec les années d'austérité et d'insécurité qui ont suivi la crise de 2008. La recette se résume ainsi. En gros, en tenant compte d'une croissance du PIB des pays développés de 1,5% et d'un demi-point supplémentaire pour les pays en développement, et si les investissements verts atteignent 2% de plus du PIB mondial, eh bien, on pourrait ainsi créer 170 millions d'emplois.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.